La revue de presse. Bonjour Claude Escolovitch.
Bonjour.
On parle d'une vertu.
Le courage, dont le mystère fait la couverture de Philosophie Magazine, qui, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui nous rend courageux, est allé en Ukraine et a relu ses grands maîtres. Et en Ukraine, à Boutcha, ville martyre, Philomag rencontre Irina, qui est septuagénaire et qui pousse sur un chariot une amie qui ne peut pas marcher. Irina n'a pas fui quand les Russes sont venus, et quand on lui demande pourquoi, elle répond « parce que j'ai un chien, je ne pouvais pas le laisser tout seul ». Et après d'autres rencontres drôlatiques et émouvantes, le reporter-philosophe Pierre Terras se souvient en Ukraine du philosophe Alain. La peur est ce qui gronde derrière le courage. Et se souvient aussi d'un psychologue américain, William James, selon lequel nos émotions n'étaient que la sensation des effets corporels, réflexes. Je traduis, ce sont les pleurs qui font la tristesse et les battements du cœur qui fabriquent la peur. Le courage, donc, ne serait qu'un mot que l'on donne rétrospectivement à un acte réalisé de façon inconsciente, incompréhensible, mais porté par l'instinct de vie. Mais est-il instinctif, ce courage, dont Platon disait qu'il n'était donné qu'à celui que l'influence divine avait rencontré et dont Sartre disait qu'il était l'épreuve de notre liberté ? Jean-Pierre Vernant, grand helléniste et grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, pensait souvent aux morts qu'il avait laissés derrière lui et concluait ceci. La vie n'est elle-même que si quelque chose dépasse ce qu'on appelle simplement vivre. Alors le courage serait cela, un rendez-vous avec soi, avec l'idée que l'on a de soi, quand les circonstances nous le proposent. L'Ukraine est une proposition. On nous en parle encore de l'Ukraine dans un article du 1 consacré à une terre qui fut, disait le poète Paul Celan qui en était issu, une terre où vivaient les gens et les livres. Cette terre, c'est la Bukovine, capitale Tchernivtsi, autrefois Tchernovitz, qui fut autrichienne, roumaine, soviétique, désormais donc ukrainienne, où vivaient une demi-douzaine de nationalités, de religions, de langues. On y parlait le français, car notre langue, savez-vous, est la langue médiatrice. Ainsi dans le 1, qui cette semaine redoute la guerre mondiale, mais nous fait aussi espérer en l'Europe, l'écrivaine Galina Dranenko, qui est de Bukovine et qui est réfugiée en France, nous fait aimer un monde fragile, complexe, menacé, indispensable.
On parle aussi de ruines.
Car elles viennent forcément les ruines en ces temps de guerre, mais elles ne sont pas seulement des destructions dues à la barbarie, elles sont aussi les ruines le témoignage du passé des splendeurs et elles sont les ruines l'objet d'un philosophe Bruce Bégout, dont le dernier essai sonne comme un paradoxe, obsolescence des ruines. Car Bégout nous dit que nous sommes la dernière génération qui va pouvoir célébrer les ruines. Désormais, par l'effet de l'écologie ou du capitalisme, nos constructions sont ou bien utilitaires, ne sont plus pensées pour durer ou alors sont faites pour être recyclées. Il ne restera rien quand elles tomberont, sinon des gravats. Bégout explique cela mieux que moi, évidemment, dans Philosophie Magazine encore, et sur le site Uzbek Erika, allez-y. Et si vous êtes dans le Gers, allez vendredi en 8 à la librairie La Méridienne de Florence, échanger avec ce bordelais sur le besoin de solide, ça je l'ai lu dans la dépêche. Dans Uzbek Erika encore, mais cette fois la version papier de ce média malin consacré au futur, lisez dans un dossier sur l'amour, qui serait le grand projet politique que nous devons accomplir, une expérience qui déconcerte par son irréalité. On nous emmène à Berlin, où s'est ouvert un cyberbrothel, un bordel cyber. Un établissement où le client se choisit une sex doll, une poupée sexuelle de silicone et de forme voluptueuse, mais à laquelle la technologie des assistants humains prête des sentiments, des répliques, une voix. Je me sens timide, ça ne m'arrive jamais. Je lis que parmi les clients de ce bordel clean, on trouve des jeunes gens progressistes qui refusent pour leur désir d'exploiter des femmes. Ce serait donc vertu. Si l'époque vous offense, allez goûter dans Le Point un article qui moque joliment nos tics de langage, nos impropriétés qui arrivent par vague et par mode. Elles aseptisent, elles font dire que nous sommes en capacité ou bien futur ready, pauvre présent. Et vous goûterez aussi dans l'Express l'interview de Jonathan Haidt, chercheur en psychologie américain, qui décrit notre temps comme particulièrement stupide, tant les réseaux sociaux fabriquent structurellement des incompréhensions. Il nous compare à Babel, cette métaphore biblique quand les hommes ne s'entendaient plus. Facebook ou Twitter seraient les dieux méchants qui nous font adorer des vérités qui s'ignorent.
Et on lit aussi un danseur.
Qui nous dit, amis, que la joie est toujours de ce monde. Il se nomme François Allu, portraitisé dans Le Figaro et dans Libération. Car à 28 ans, enfin, le voilà étoile de l'Opéra de Paris. Lui qui aime bondir, qui jadis escaladait des immeubles tel Yamakasi, et qui dans les soirées n'aime pas danser mais plutôt bavarder, et bavarde alors dans nos journaux de corps, de mouvements et d'idées. Il fait envie le bougre qui se décrit ainsi, chauve avec de gros quadriceps. Il s'est éloigné un peu de l'opéra pour emmener en France, d'abord dans le sud, son spectacle intitulé « Complètement jeté », les dates sont dans les journaux. Roboratif aussi bien est Georges Payet, nom de plume Esparbec, que Marianne célèbre sur deux pages réjouies. Mort il y a 2 ans, mais dont on publie enfin les œuvres complètes aux éditions La Musardine, maison érotique. Car Esparbec était pour ses admirateurs, parmi eux le regretté Volinsky, le plus grand écrivain pornographique français qui appelait les choses par leur nom. Il était projectionniste, il essayait d'écrire des polars qui ne finissaient pas, quand le hasard lui a fait rencontrer le porno, et là il a fait œuvre de détails sordides et contre nos prudences actuelles, fantasmé l'insecte et autres échappées. Dans Le Progrès, j'en termine, ce n'est pas de la littérature mais c'est doux. Regardez une jeune fille de 13 ans, Méline Tran, qui à 3 ans, s'étant obstruée la trachée, s'en allait vers une mort inéluctable et puis est revenue. Une chaîne de prières avait sollicité pour elle la mémoire de Pauline Janicot, qui au 19e siècle avait consacré sa vie à Dieu et qui par la renaissance de Méline, miracle reconnu par le pape, sera béatifiée ce mois-ci. Belle vie.
Merci à vous, Claude Ascolovitch.